Dans la jasette numéro 33, je te parle des ligues majeures de baseball. J'ai des fun facts pour toi, j'en ai quatre. Je te parle d'un podcast qui s'intitule « Sans filtre ». On fait une collaboration avec J. Dutemple. Je te parle de mes futurs collabos. Ça reste du mystère. Je te conte une bonne histoire, celle de Tilouis Pelletier directement de la Gaspésie, et j'ai une anecdote pour toi, qui n'est pas de moi, mais qui vient de M. Gilles Leblanc, de Victoriaville. Et ça commence right.
Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most secret project, the Time Tunnel.
Vous êtes bien dans le début de la jasette numéro 33. Je commence ça en vous parlant de la MLB, la Major League Baseball. Eux sont en train de faire une entente, les dirigeants et le président, avec l'association des joueurs. Puis là, ben devine, là, tu vas tomber sur le cul si tu es un fan de balle. Tu vas tomber sur le cul, ils sont pas capables de s'entendre. Puis ça, c'est pas nouveau, ça fait des lustres. Depuis les années 60, que l'association des joueurs et les dirigeants ne s'entendent pas, qui se tapent dessus, qui nuisent au baseball, j'ai juste à vous rappeler. 1994, vous avez tout compris. J'étais un peu... Je suis pas mal en tabarnak de ça. Les ligues majeures, la seule chose qu'ils font, c'est nous éloigner du baseball. Pis c'est pas vrai que moi, en tant qu'amateur de balle, m'en revenir en courant puis en pleurant que les ligues majeures vont revenir, c'est pas vrai. Je m'explique. Pendant la pandémie, on a vu les associations de sport. Je te donne un exemple. Le UFC s'est très bien adapté. Ils ont décidé de recommencer. Ils ont donné du sport aux gens. Puis ça va très, très bien. Eux, ça roule comme d'habitude. Évidemment, il n'y a pas de spectateurs dans les estrades. Maintenant, ils vont à leur centre de performance au UFC Apex à Las Vegas, Nevada. Mais ils se sont bien adaptés à tout ça. Et après ça, une autre grosse organisation, NASCAR, qui est très, très gros aux États-Unis, ben eux, ils ont recommencé. Même chose pour le golf. Ils ont recommencé la PGA. La NBA s'apprête à recommencer en juillet. Ils vont aller jusqu'au 1er octobre, je crois, puis après ça, ils vont commencer, ils vont faire une prochaine saison à partir du 1er décembre. Donc, se sont bien adaptés aussi, joueurs et dirigeants. La Ligue nationale de hockey recommence aussi en juillet. Les gars sont déjà en train de pratiquer. Pour le football, la NFL dit qu'il n'est pas question de jouer sans spectateurs. Donc, on va voir comment eux vont finir par s'adapter. Mais pour l'instant, ça va bien. La seule organisation de sport qui n'est pas capable de s'adapter, en passant la boxe aussi de retour, donc, les ligues majeures, mais ça m'écœure tellement dans le sens que les joueurs de baseball, on le sait, sont très bien payés. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est une question d'offre et de demande. Quand tu comprends ça, tu comprends tout. C'est pareil pour le cinéma. Les acteurs sont payés à des sommes ridicules, mais c'est là fait la demande, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pas de problème avec l'argent, OK? Je te le mentionne pour pas qu'on me dise après, « Ah oui, ben c'est ça, le barbu, lui, il est jaloux. » Non, il n'y a aucune jalousie là-dedans. Je fais juste dire qu'on vit une pandémie mondiale, OK? Tout le monde a été touché. On a vécu quelque chose de vraiment spécial, OK? Là, on déconfine. Les gens sortent dehors, sont contents, sont heureux, puis à travers ça, on a vécu l'histoire de George Floyd. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de 2020. Eux, les Fat Cat des ligues majeures, les joueurs, eux autres, là, c'est pas assez correct pour eux, les montants d'argent, ils en veulent plus. Puis, sais-tu quoi, j'ai le goût de mettre les dirigeants là-dedans aussi. Arrêtez de vous chicaner les deux, là. À un moment donné, on peut-tu parler d'autre chose que l'argent? Je me souviens, moi, il y a très longtemps, tu vas me dire, je suis vieux, quand Charles Bronfman avait refusé de Gary Carter, imagine-toi donc, dans le temps, comme meilleur receveur des majeurs, demandait 1 million par année. Bronfman, il a dit, jamais m'a payé un gars 1 million. Bon, ben éventuellement, il a donné 10 millions à Tim Raines, puis bon, etc. Mais tu vois que ça date pas d'hier. Puis, regarde, ça fait juste mettre un... Moi, pour ma part, là, ma petite part à moi, ça me fait juste mettre un clou de plus dans le cercueil des ligues majeures. Ça fait longtemps que les ligues majeures me tapent ses nerfs. Même si j'étais un amateur de balle, ça fait longtemps qu'ils me tapent ses nerfs à plusieurs niveaux. Là, ça ajoute sa montagne là de ce que moi, ils me tapent profondément ses nerfs. D'habitude, son business... Les ligues majeures, là, ça manque de vision. Ils vont se tirer dans le pied, ils vont se faire mal parce que les gens vont aller au UFC, ils vont aller à NHL, ils vont aller NBA, NFL. Puis faites-vous pas oublier, ça peut arriver. Je te dis pas que c'est la fin des ligues majeures demain matin, là, c'est pas ça, là. Mais ce qu'ils font présentement, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour le monde, c'est pas bon pour ceux qui travaillent dans les stades. Le gars qui vend du popcorn, le gars qui vend des... la fille qui vend des moitiés-moitiés, la caissière, le gars à gate, c'est pas bon pour eux autres, là. C'est d'eux autres qu'on... C'est à eux qu'il faut penser, là, aux étudiants qui travaillent dans les stades, tu sais. Je pense pas, là, aux propriétaires puis aux joueurs, eux autres, demain matin. Ils ont plus peur, eux autres, de la fin du monde que de la fin du mois, moi, te le dire, moi. Donc, ben, c'est ça. C'est plate. On parle encore de maudit argent pendant qu'on devrait parler de d'autres choses présentement. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Mais ça a l'air qu'eux autres, les dirigeants du baseball majeur et les joueurs sont au-dessus de tout ça. Est-ce que vous êtes surpris?
Fun fact!
Écoute bien ça. En parlant des ligues majeures, en 1963, savais-tu la barbunation que le lanceur des ligues majeures, Gaylord Perry, excuse-moi, a dit, ben ils vont mettre un gars sur la lune avant que moi je frappe un circuit. Tellement qu'il était pas... C'était un lanceur. Fait que, puis c'était un gars qui avait pas de power au bâton. Puis, en juillet de 1969, crêlez pas, ça c'est dans les livres, une heure après que Neil Armstrong a mis le pied sur la lune, ben Gaylord Perry a frappé son premier et son seul circuit en carrière pour les Giants de San Francisco. Je sais pas si tu savais la barbunation. Un joueur de basketball, Michael Air Jordan, fait plus d'argent avec Nike à tous les ans que l'usine Nike, que tous les employés qui travaillent dans l'usine Nike en Malaisie. Ça y comprend les boss, les gérants, puis toute la patente. Savais-tu la barbunation? Que le chien d'Abraham Lincoln, Fido, a été assassiné lui aussi. Dernier fun fact, savais-tu la barbunation, attache ta tuque, que la chaise électrique a été inventé par un dentiste. Ma suggestion de podcast cette semaine, je suis bien content parce que c'est le déconfinement. Puis c'est le premier podcast qui est de retour dans son studio. C'est le Sans Filtre. Qui ont fait une collabo avec un gars qui enregistre son podcast lui-même dans ce studio, celui du Sans Filtre, et je parle de J'ai du Temple. Donc, c'est la gang du Sans Filtre avec J'ai du Temple qui font une heure de podcast sur l'émission du Sans Filtre, et ils vont faire une heure sur le podcast de J'ai du Temple. J'ai du Temple discute. Ce fut une très bonne discussion. J'ai bien aimé ça. On a été plus en profondeur avec J'ai du Temple au sujet de son fameux spectacle, son dernier spectacle qu'il a fait avant la pandémie là, au Centre Bell, où ce qu'il s'avait fait couper les cheveux aussi puis tout ça. Puis c'était bien intéressant de l'entendre dire que finalement il avait eu la bonne idée de s'entourer de ses amis, c'est sa sœur, sa gérante puis tout ça. C'était bien, bien intéressant, ça. Puis, d'un point de vue de travailleur autonome comme moi je suis, ben c'est intéressant d'entendre ces choses-là, de s'entourer de gens que tu connais, tu sais. Puis, moi, je trouve ça... comme je te dis, intéressant. Puis, venant d'un gars comme lui qui a beaucoup d'expérience, c'est sûr qu'on écoute, tu sais. Donc, ça... L'émission a duré environ deux heures, je te dirais. Et puis, les gars, ils ont PH Quentin puis Dom Plante. C'est ça, les deux animateurs du Sans Filtre. Ils ont été en profondeur. Puis après ça, ils ont été au podcast de Jay. Puis on continue la conversation. Puis on voit bien que c'est des amis, là. On sent la relation puis le bonheur de se retrouver, tu sais, après la pandémie. Puis, moi, c'est le genre de patente que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le minding de ces gars-là. Est-ce que je suis capable de toujours l'appliquer? Non, pas nécessairement. Ils ont le minding de Joe Rogan, Gary Vaynerchuk, Kevin Hart. Je sais pas si tu connais ces noms-là. Je t'en ai déjà parlé de ces gars-là. Moi, je dis des grinders, tu sais, des gars qui... des gars ou des filles, là, tu sais, qui travaillent avec acharnement. Puis moi, avec ce que je fais, j'essaye de m'inspirer d'eux, tu sais, c'est de l'inspiration, tu sais. Et puis, des entendre parler aussi, c'est vraiment passionnant. Je vais faire un pléonasme, là. C'est passionnant d'entendre parler des gens passionnés. Moi, ça vient me chercher. Peu importe le sujet, tu peux être passionné par les tomates, mais moi, je veux t'entendre parler de tomates. Comprends-tu? Je sais que tu vas connaître ton sujet de fond en comble, puis ça, c'est intéressant. Trop souvent, on parle en surface du small talk. Ben, j'en fais beaucoup aussi, moi, du small talk. Ça peut être intéressant, mais c'est pour ça que les gens qui sont passionnés, pour moi, sont intéressants. C'est pour ça que j'aimais les fermiers à UNITV que j'ai regardé, là, puis que je t'en ai parlé, Jean-Martin, puis Fortin, puis même si je suis pas le genre à me mettre la main dans la terre, puis j'ai pas le pouce vert pendant tout, ça m'intéressait, je trouvais ça... Il y a quelque chose de beau là-dedans, de... En fait, je pense que la vie sert à ça, tu sais, on est ici, on a une vie en théorie, là, personne ne le sait s'il y a d'autres choses après, mais en théorie, on a une vie, fait qu'on est aussi bien d'en profiter, puis de faire de quoi avec... C'est pour ça que j'essaye le moins possible de regarder de télévision, de jouer, de gamer. Je game de moins en moins parce que je veux créer, je veux travailler sur mes shit, comme on dit, tu sais, en bon québécois. Donc, c'est un 2 heures, là, devant toi, en auto, aux toilettes, dans le bain, whatever, là. C'est ça qui est le fun des podcasts. C'est un 2 heures devant toi. Va regarder le dernier épisode, le numéro 93, disponible sur le podcast Sans Filtre. Puis après ça, tu switches sur celui de J'ai du temps de discute, le dernier épisode. Je me souviens pas c'est quel numéro. Le numéro, il l'indique-tu? Oui, le J'ai du temps de discute numéro 42. Donc, Sans Filtre numéro 93. Donc, 93 épisodes. Et tu t'en vas après J'ai du temps épisode numéro 42. C'est la fin de cette entrevue-là. Très, 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 très intéressant. D'ailleurs, en parlant de confinement, vendredi passé, ce qu'on vient juste de passer, c'était le début des pratiques de baseball pour ma jeune fille qui devrait jouer avec les Rebelles cette année. C'est une équipe de filles. Ben content d'avoir été à Sainte-Anne-des-Plaines, au petit parc Gagnon ou Bruchésy, quelque chose de même. Anyway, beau petit parc. C'était vraiment agréable. On a jasé avec les parents, on était à 2 mètres. Tout le monde a respecté le 2 mètres, l'histoire du déconfinement, puis tout ça. Fait que c'était bien intéressant. Puis c'était le fun de voir ma grand-fille aussi sur le terrain de balle. Ça faisait du bien. Il m'a dit qu'il y avait un petit côté zen à tout ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle le bonheur, qui n'est pas toujours facile à voir et toujours accessible. Mais bon, là, on était en plein. J'avais les deux pieds en plein dans le bonheur, puis j'en ai profité pleinement, puis j'ai regardé la pratique au complet, qui a duré de 6h à 8h15 environ. On m'a dit, il faisait fret ce soir-là, il y avait un méchant vent, mais pour les filles sur le terrain, c'était parfait. Le coach qui s'appelle Kevin mène ça de main de maître. C'est beau de voir ça aussi, le gars il est passionné, il aime ce qu'il fait, ça paraît. Il sait où ce qu'il s'en va, puis quand tu mets ton enfant dans les mains d'un coach, ben tu veux pas que ça soit brouillon, je l'ai vu trop souvent, mais lui, il sait où ce qu'il s'en va, là, puis il dirige ça, puis c'est vraiment beau de voir ça. Comment que cette organisation-là, nous, qu'on ne connaissait pas, les Rebelles, ben on les connaissait, mais on n'avait pas pratiqué avec eux encore, là. L'année passée, on nous avait offert d'y aller, mais on n'y avait pas été. Ben Mathilde n'était pas intéressée, mais là, cette année, elle le désire, puis elle veut, puis... Colin, c'était une ambiance différente, puis c'est bien le fun. Les parents, super agréables. Donc, bien content du déconfinement. M'a dit, ça nous fait respirer. Et dans le prochain podcast, je devrais te parler de ma première visite dans un restaurant depuis le début de la pandémie. J'ai réservé ça pour samedi prochain. Imagine-toi donc. Laisse-moi te raconter une histoire qui s'intitule Tilloui Pelletier. Mai 2020, en plein cœur de la pandémie, Laurent Vieux-Boc Pelletier passe ses journées dans la nodière dans le bois. Il bûche seul, comme un seul homme. Il bûche avec son héritage génétique, celui de son père gaspésien, Tilloui, la même génétique qu'il a transmis à son fils Félix, alias Hammer, 5 pieds 10, 240 livres de puissance naturelle. Il est loin de sa blonde qui travaille présentement à Quidjack. Il est seul comme un seul homme contre la COVID, seul avec le bois dans la forêt, les oiseaux de toutes sortes qui font toujours leur nid, même si la terre a arrêté de tourner. Les ratons laveurs déguisés en personnages de cornemuses, les ours sortis de leurs hibernations qui pêchent sur le bord de l'eau. Laurent Pelletier est un homme de son temps et d'une autre époque en même temps. Il est de cette race d'hommes presque en voie d'extinction. De ceux pour qui le mot compromis n'existe pas. Il a toujours la main sur le cœur, comme on dit, toujours prêt à aider son prochain. Mais si tu veux bien t'aider aussi, il fend son bois old school à la hache, comme son père Tilloui le faisait à l'époque. La nuit, parfois, quand le ciel éclaire la nuit, Laurent marche en montagne, cherche les meutes de loups. C'est pas pour les tuer, mais c'est par passion, pour les regarder être une meute. La sienne est en Gaspésie, pas loin de Cap-Chaud. Et à la lune des loups, Vieux-Boc Pelletier hurle avec eux comme un cri du profond de son âme vers la Gaspésie, vers son Tilloui et son Félix. Hurler à s'arracher les poumons et devenir le loup-garou de Lanaudière. Souvent le matin à l'aurore, il part en canot écouter les poissons, écouter le silence au milieu du lac. Il pense à sa blonde si loin au nord du Québec. Il l'imagine dans ses bras, dans son canot au rythme du courant. La pandémie n'est pas dans la nature, mais partout ailleurs. Pendant ce temps-là, son fils Hammer ne peut frapper comme un 10 roues sur les glaces du Seigneur 2A en Gaspésie, comme son père Félix est drette comme un chêne, bien enraciné dans sa Gaspésie. Si Louis, du haut de ses 81 ans, a écrit un livre sur la prohibition dans son coin de pays, puis il est en train d'en écrire un autre sur le braconnage. Il n'a pas la langue de bois, le bonhomme. Il est le patriarche, l'homme d'une autre époque. Le bonhomme a des grosses paluches, tant et tellement qu'elle vous écrase quand vous lui donnez une poignée de main, sans même qu'il ait fait exprès. Il n'y a aucune malice en lui. Tout ce que Laurent, vieux Boc Pelletier, connaît du bois, vient de son père Tilouis. Et tout ce que Félix, Hammer Pelletier, connaît du bois, vient de son père Laurent. Ils sont tribu pour trois en latin. J'irai pas jusqu'à dire Sainte Trinité, parce que là, j'ai l'impression que les ancêtres se tourneraient dans leur tombe. Puis ça, tu veux pas ça. Ils sont alpha, avec un Christ de A majuscule. C'est clair, net et précis. Si demain, la Troisième Guerre mondiale éclate, moi, je vous le dis, je les veux immédiatement dans mon clan. Laurent regarde l'horizon et pleure silencieusement. Il sait que la pandémie va se terminer un jour, comme tout se termine un jour. C'est le cycle naturel de la vie. Il sait qu'il va retourner, qu'il va retourner, qu'il va retrouver son monde, son sang, ce qui permet à son cœur de battre. Pour l'instant, à travers le bois de l'anodière, il cherche. Il cherche la forêt. Parfois, il se trouve dans le reflet d'un ruisseau. Les nuits sont longues, l'alcool est douce dans la gorge. Les souvenirs, les photos qui lui rappellent ce qu'il porte en lui. Il porte en lui un patrimoine sans fin, gossé par Tilouis. Il rêve d'un petit cheminot, pris avec la meute de Tilouis au cœur de janvier, les deux pieds dans la neige aux abords du rocher percé. Le temps semble arrêté. C'est le temps de prendre le temps. De laisser la pluie tomber. Laisse-la tomber, mon vieux Boc. La planète a fait un reset à la grandeur de son territoire, mais la tribu Pelletier est encore debout devant la vie. Le grand chef de la meute est debout dans ses bottines de jobber, comme la légende qu'il est. Tilouis, debout comme ses ancêtres, comme les colons avant lui qui ont fabriqué ce pays de misère, debout devant les tempêtes, devant les jarrets d'ondus, devant le vent de l'océan, devant une meute de loups. Tilouis est le folklore à lui seul. Il est d'un autre temps, mais bien ancré dans le présent. Tilouis à la hache, Laurent au boxa, puis Félix qui empile bûche par bûche, dans une symphonie d'hier à aujourd'hui. Mais les hommes comme Tilouis Pelletier ne sont pas éternels. Mais laisse-moi dire que le jour que Tilouis va arriver en haut, ça va trembler en maudit dans le comté de la côte de Gaspé. Ça va trembler encore plus dans le cœur du vieux Boc, mon chum Laurent. Hammer, mon garçon, t'as l'héritage des anciens en toi. Il est important que tu fasses briller ce si précieux patrimoine. Tu le portes en toi. Tu représentes les Pelletiers à chaque fois hors et sur glace. J'ai hâte de te voir jouer en personne. Ah, comme dirait Denis Vanier, levons nos verres en l'honneur de celui qui se bat le nez cassé. Tilouis, mes hommages, mon respect à l'infini. Chaque jour de ta vie, tu tentes de donner l'exemple, de vivre ta vie sans compromis. À 81 ans, il te reste encore un bon 19 ans sur cette terre gaspésienne tant aimée. Nous aurons l'occasion de lever le coude ensemble. Puis ce jour-là, j'aimerais avoir l'honneur de recevoir ta bénédiction paternelle. Laurent, mon ami Laurent, à travers ce texte, je voulais rendre hommage à ton père à travers toi. Tu sais mon respect. De compter des personnes comme toi et ton père dans mes lecteurs est un immense honneur. Avec un petit cheminot dans les mains, laisse-moi hurler au loup à mon tour. Au nom du fils, Félix, du père Laurent et du patriarche Tilloui, les Pelletiers de la Gaspésie font honneur à notre terroir. Hey, c'est facile. Si tu veux éviter les épiceries, moi, j'ai une solution pour toi. Ben facile. Ça s'appelle Chef Maison. T'appelles au 438-872-9500. T'appelles mon ami Roger Hengang. Tu peux commander le familial pour 4-5 jours à 75$. Oublie pas ça. Ça, c'est pas cher, là. Ça, c'est beau, bon, pas cher. Puis, en plus, t'évites les épiceries. Puis, tu peux aller voir sur sa page Facebook. Tu tapes Chef Maison. Tu vas te rendre direct sur ce lien-là. Et puis, c'est peut-être la meilleure affaire que tu vas avoir faite pour ton quotidien. En terminant, je pouvais pas m'empêcher dans cette jasette numéro 33. Je vais avoir une nouvelle collaboration avec un gars de Varennes. Je t'en dis pas plus, mais là, on s'est parlé au téléphone, puis là, on s'est mis d'accord, puis tout ça, puis... Je suis bien content, je voulais juste te le dire, on est lundi, puis je suis bien excité de ça, puis je travaille fort sur mes choses. Donc, nouvelle collaboration, tu vas voir d'autres choses passer avec un collabo, avec un comptable, une firme de comptable, puis je suis bien content de ça. Donc, je t'en parle plus, tu vas voir des choses passer, puis je t'en parle plus dans le prochain podcast. Anyway, tu vas voir des annonces de cette personne-là, beaucoup de respect, donc... vraiment content. Puis en terminant, j'ai une anecdote pour toi. Je pensais pas te la conter là, mais regarde, je te la compte, j'y vais. J'improvise. Je m'étais promis que. Ben, j'improvise souvent dans le podcast, mais là, j'y vais de même, tout de go. Parce que je vois le temps filer sur mon Audacity, sur lequel j'enregistre, puis 25 minutes, j'aimerais ça me rendre à 30 minutes, donc on continue. Écoute, l'anecdote qui suit, elle vient pas de moi. Faut être honnête, je me donnerai pas le privilège de dire que c'est moi qui l'ai. C'est mon anecdote, c'est pas vrai. Ça vient de Gilles Leblanc, de Victoriaville. Gilles, c'était un maudit jaseux, il y a de la jasette, puis il m'en a conté une bonne hier, dimanche, puis j'avais le goût de la partager. Écoute bien ça. Gilles, à l'époque, était brocanteur, puis ça vient d'un gars qui a fait de la brocante aussi. Un brocanteur, c'est un gars qui cherche des trésors, qui cherche des vieilles affaires qui valent de l'argent. Mais l'idée, c'est de ne pas payer cher, puis de faire un profit avec ça. Mais c'est une maudite job, ça, là. C'est bien du fouinage, puis du fouillage, puis du tataouinage, puis du parlage, puis du gossage. C'est bien de ça. Fait qu'écoute bien ça, le gars, qui est pas Gilles, c'est Gilles qui a conté l'anecdote, OK? Ça se passait ça à Thetford-les-Mines. Tu connais Thetford? Bon. Une demi-heure de Victoriaville, à peu près. Bon. Fait qu'on est à Thetford-les-Mines. Ça se passe fin des années 70, début des années 80. Le gars, c'est un brocanteur. Il a fait ça toute sa vie. Puis ce jour-là, il a trouvé la perle. Tu sais, quand tu fais ce métier-là, tu cherches, la patente qui va te donner de l'argent. Peut-être qu'il ne te mettra pas millionnaire, mais qui, ben, tu le rêves puis tu l'espères. Tu sais, tout le monde veut avoir la carte d'Onus Wagner qui a été vendue à 1 million. Bref. Il arrive chez un bonhomme qui avait des affaires qui avait des affaires à vendre. Dans le coin, il voit une commode, un bureau. Mais pas n'importe quelle sorte de bureau, là. Non. Là, on parle d'un... Je veux pas me tromper, il me l'a dit, je m'en souviens plus, mais c'est du genre, là, moi, te le dire, un genre de bureau commode, là, Louis XIV, là. Tu comprends-tu, là? Il y en a comme deux dans le monde, là. Lui, le bonhomme, il y en a une. Le brocanteur en question, il connaît ça, il a vérifié, il sait que c'en est un. Tu comprends-tu? Le bureau en question, ça vaut entre. Attache ta tuque. OK, c'est une pièce rare, c'est une pièce de collection. Ça vaut entre 35 et 45 000. Mais l'idée, si le bonhomme, là, il laisse traîner ça dans une chambre en haut, dans le haut côté, là, ça veut dire qu'il trouve pas que c'est important, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Fait que le brocanteur, Il faut pas qu'il vende sa sauce, là. Faut qu'il attende. Il dit, ben moi, je... Il dit le classique, je vous en débarrasserai. Le vieux bonhomme le regarde et dit, ah, oh, hey, moi, là, que ça parte d'ici, je vais être bien content, ça prend bien de la place, cette affaire-là. C'est une vieille patente. Il dit, donne-moi 100 piastres, là, puis va-t'en avec. À le fameux brocanteur, c'est pas mis à carrier de joie, là. Il a fait comme si tout était notre. Tu comprends-tu? Il avait son poker face, comme on dit. Il dit, correct. Il dit, ben c'est parfait, moi, vous donnez 100$, le voulez-vous tout de suite? Le bonhomme, il est comme surpris, il dit, ben là, ben quand vous allez venir le ramasser, le brocanteur, il dit, ben là, j'ai rien pour le ramasser, mais demain matin, il va venir. Mais je vous donne tout de suite le 100$ en garantie. Ah, ben si vous voulez, mais moi, je vous fais confiance. Il dit, ben oui, je comprends bien ça, mais moi, je veux vous faire plaisir si vous avez besoin du 100$ ce soir. Le bonhomme, il est content, pogne le 100$, donne ça à la bonne femme. Le brocanteur s'en va. Puis comme le vieux bonhomme, c'est un bon bonhomme, puis il est bien gentil, il s'est dit dans sa tête, lui mais qu'il revienne chercher ça, là. Cette affaire-là, là, ça va être bien gros, puis ça va être pesant, puis tout ça. Puis, il me semble qu'il me dit qu'il ferait du bois de chauffage avec ça. Mais le soir, comme un bon bonhomme, il a tout coupé ce bureau-là en petit bois de chauffage. Fait que le lendemain matin, le brocanteur est revenu cogner à la porte, gros sourire, grand gens comme devant, tu comprends-tu? Le vieux bonhomme l'a accueilli, puis il avait tout mis ça au pied de la porte. Il dit, « Monsieur, vous n'aurez pas besoin de forcer sur le meuble. » Il dit, « Ah non, pourquoi? » Ben, je vous ai fait du beau bois de poêle avec ça, comme vous vouliez faire. Je vous l'ai fait. Je me disais, pour 100$, je suis aussi bien de le faire. Moi, j'imagine la face du brocanteur. Mais la morale de l'histoire, parce qu'il y en a une morale, il y a une morale à toutes les histoires. Quand t'as un bon deal de même, là, t'as réussi à closer, comme disent les Chinois, un bon deal de même. Prends ton bureau, puis va-t'en tout de suite. Attends pas au lendemain, on sait jamais. Sur ce, à la prochaine.